Moy Strauss, Adam Wolf, Mémoire d'un voleur de qualité, chapitre 7. Nous avions fait halte dans une grande ville de l'Amérique du Sud, ville commerçante, très riche et prospère, où sûrement nous allions trouver affaire. L'affaire s'offrit tout autre que nous aurions pensé à nous la figurer. Assez tard dans la soirée, nous sortions d'un théâtre. Le temps était magnifique et nous résolûmes de rentrer à pied. Une voiture nous devança au trot alerte d'un demi-son. Dans la Victoria se prélassait une ravissante jeune fille en compagnie d'une dame âgée, mère ou duègne. Soudain, devant nous, le cheval Sava, arrêté dans sa course par un lasso jeté autour de son cou. Les hommes grossiers, trois gauchos, ivres visiblement, s'élancent. Ils rossent le cocher, le contraignent à la fuite, et il rit aux éclats, content d'avoir réussi dans la grande ville, une de ses farces naturelles, dans la Pampa. Tout cela, nous le vîmes en courant, dans le but même de mettre le holà à cette prouesse. Et à ce moment, au moment où les ivrognes se précipitent vers les femmes immobiles et muettes de terreur, Petit Loup surgit parmi eux, tel un bolide. Il frappe des poings, il frappe des pieds, exécute les coups de savates les plus acrobatiques. Les trois gauchos, surpris, cèdent d'abord. Ils se ressaisissent bientôt et nous assaillent. Ils ont tiré le couteau, mais l'attaque de Petit Loup a été sonore. Et les femmes rient maintenant et crient au secours. Je les aide le mieux que je peux, enfin, enflant ma voix. Les agents de police accourent, nous leur prêtons main forte, ils s'emparent des malandrins. Et voilà comment Petit Loup est tombé amoureux d'une pure et charmante jeune fille, la fille d'un très honorable commerçant. On l'a ramenée, on l'a remerciée. Avec quelles effusions! On l'a invité, et le brave garçon, qui n'en est pas cependant à sa première bonne fortune, aime sérieusement pour la première fois de sa vie. Il ne parvient pas à se rendre clairement compte de ce qu'il éprouve, cherche à démêler ses sentiments. Attendri, je me souviens que j'ai passé par là. Je l'engage à aller carrément demander la main de sa belle. Il rougit, il pâlit dans le même moment. Et sans me répondre, il soupire. Une grosse larme perle à ses yeux, lui coule lentement le long de la joue. Je devine sa pensée. « Voyons, grand enfant, mais vous n'avez qu'à taire le passé. » D'ailleurs, il est entendu que vous renoncez au métier. Vous êtes vif, sincère, livré à vous-même. Vous ne feriez que des bêtises. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un voleur romantique. Il se taisait encore et me serrait le bras à ma force. Je repris. Notre campagne a été fructueuse. J'ai trouvé ici à liquider les joyaux du Mexicain. Tous les frais de voyage défalqués, voici ce qui vous revient. Et je lui tendis une liasse de billets. Il y a là 700 000 francs en argent de France. C'est à dessein que je vous remets le papier de votre pays. Croyez-moi, c'est là qu'il faudra aller demeurer avec votre femme. Cette petite fortune, c'est le nerf de la guerre, le facteur indispensable à tout succès. Vous vous adonnerez à la science en toute tranquillité, l'esprit, qui sait. Les honneurs de l'Institut vous attendent peut-être. Si vous trouviez quelque chose qui trahisse les voleurs, naguère on croyait qu'il suffisait d'examiner la rétine d'un assassiné pour y découvrir l'image du meurtrier. Maintenant on fait grand cas des empreintes digitales. Cherchez. Peut-être une plaque photographique au fond des coffres-forts. Est-ce que je sais ? S'il daigna rire de ma boutade, ce fut par politesse pure, car il avait le cœur bien gros. Moi aussi, j'étais ému. Et cependant, j'ajoutais, « Allez, serrons-nous bien la main, c'est la dernière fois. Faut pas qu'on nous revoie ensemble. » Petit Loup vit maintenant en France, dans une ville de province. Il se plaît à déclarer que plus on étudie et plus on est disposé à rougir de son ignorance. Malgré cette sage modestie, son mérite est publiquement reconnu, et voilà pourquoi je me suis refusé à le désigner ici par son nom. Et il ne manque jamais de m'écrire et me tient au courant de ses découvertes. Il m'appelle son bienfaiteur. Il est le seul de tous les hommes dont j'ai fait la fortune qui ne m'en veut pas de l'avoir obligé. J'étais parti d'Angleterre depuis 18 mois, et j'étais curieux de savoir si on m'y avait oublié. Oh non, on m'y guettait. Et c'était encore à cause du Gainsborough qui avait fait reparler de lui. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais consenti à avancer de l'argent à Joliet sur la part du tableau, et bien qu'il n'avait plus rien à réclamer. Joliot, marié avec une actrice, l'avait emmené en Amérique. Là, il avait assuré la vie de sa femme pour 300 000 francs. Il était allé faire avec elle un voyage dans l'Ouest. Puis, revenu seul à New York, il lui montrait un acte de décès, un certificat d'inhumation. Bref, il avait obtenu le règlement de sa police. Mais la fraude découverte, il fut arrêté. Il avait alors mandé une détective dans sa prison, dans l'espoir d'obtenir sa délivrance. Il jurait qu'il aurait fait rendre le Gainsborough à ses propriétaires et racontait par le menu toute l'histoire du vol. Mais ce qu'il n'était pas en état de divulguer, c'est la chose qu'il importait surtout de savoir où se trouvait actuellement le tableau. Il dut se résigner à rester en prison. Le détective américain avait rédigé son rapport. Celui-ci fut transmis à Scotland Yard, où il parut des plus maigres. Tout ce qui s'y trouvait relaté, la police anglaise le savait. Elle ne doutait pas que je fusse le voleur, mais les preuves manquaient. Comment s'y prendre pour m'accuser ouvertement, me traîner devant les juges? Ce qui manquait surtout, c'était le corps du délit que l'on ne savait pas où retrouver. Je pensais qu'il devenait urgent de le déménager. Depuis trop longtemps, il dormait à Brooklyn. Il ne fallait pas que la police allât l'y réveiller. Je me suis dit donc à refaire le voyage d'Amérique. D'ailleurs, il me tarde de revoir les miens, de goûter au sein de ma famille quelques jours de bonheur paisible. Selon mon habitude, je m'enquiers si quelque bonne affaire ne me permettra point de compenser les frais du déplacement avec quelques bénéfices supplémentaires. Bob B., le receleur d'Inchington, me montre une fort belle collection de diamants. Il peut me laisser ça à des conditions tout à fait avantageuses. Ces pierres, naturellement, ont été acquises à la foire d'Empoigne. Ce sont les dépouilles d'une bijouterie qui a été cambriolée. Ils sont très gros, ces diamants, mais trop jaunes. Ça ne fait rien. Je tiens un secret de Petit Loup qui va remédier à cette défectuosité. Avec une solution éthérée de bleu d'aniline, je donne à ces pierres, nuances de citron, une eau magnifique. Évidemment, cette blanche limpidité va disparaître à l'usage. Mais au moment de la vente, le seul qui m'intéresse, leur valeur se trouvera augmentée de 200%. Par cet artifice est simple, si simple, nous avons réussi à duper les bons de piété à Paris, à Bruxelles, à Vienne, à Madrid. Dans les principales villes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, les Pound Brothers, les prêteurs sur gage, n'y ont vu que du feu. C'est le cas de le dire. Partout en Europe, le truc est éventé. Mais les Yankees devront s'y laisser prendre. Je compte passer mes diamants en contrebande. Aux États-Unis, les droits d'entrée sont énormes. C'est encore un profit qui n'est pas du tout négligeable. À Counter, affronter la douane de New York serait par trop téméraire. Tandis que le bateau remonte le fleuve, entre dans la rade, les gabelous ont tout loisir de faire des recherches, et le détective qui monte à bord pourrait me signaler à leur attention toute spéciale. C'est au Canada que je vais aller. Je m'embarque à Liverpool à destination de Montréal. En route, quelqu'un cambriole des cabines. Les passagers se plaignent. Le capitaine ouvre une enquête qui ne donne aucun résultat. Tout cela m'inquiète. Et quand le steamer sur le Saint-Laurent, un peu avant Montréal, s'arrête devant Rimouski, j'y descends. Me voilà dans une belle passe. Pour gagner n'importe quelle grande ville, il faut que de Rimouski, j'aille d'abord à Montréal. Et c'est par le train que je dois m'y rendre, alors qu'il était si simple, si commode de rester tranquillement sur le bateau. La police canadienne avertit des vols commis par un inconnu dans les cabines de bord. Vol de menu bagatelle, dont je suis innocent, cela va sans dire. La police canadienne ne manque pas de soupçonner tout de suite l'homme qui en hâte a quitté le navire en cours de route. Et cet homme, c'est moi, hélas. Tandis que le train va rouler à bonne allure, je reconnais ma bêtise. J'envisage les suites logiques de ma précipitation. J'observe, je scrute la physionomie des voyageurs. Oh, pas de doute, ce grand escogriffe maigre, que voilà ne serait être qu'un détective. Il examine tout le monde. Avant que son regard ne se soit porté sur moi, qu'il ait pu m'identifier avec le signalement qu'on a dû lui donner, je me retire discrètement à l'écart. Nous nous trouverons dans un vaste compartiment, tout le wagon. Il y a un poêle au milieu et comme nous sommes en plein été, ce poêle ne brûle pas. Je m'approche sans affectation et je réussis à l'ouvrir, ce poêle. Il est plein de cendres de divers derniers. Et voilà qui me rassure grandement. Je glisse parmi ces cendres l'enveloppe qui contient la partie des diamants achetés à Brisby. Je referme le poêle et je viens me placer tout près du détective qui me dévisage, m'arrête. À Montréal, devant le juge, je n'ai aucune peine à me disculper, d'autant mieux que l'on vient de découvrir l'auteur des rapines à bord du navire, un Suédois habitué à ce pauvre genre de vol. Mais il me fallait maintenant rentrer en possession de mes diamants. Allais-je les retrouver? Je vais me promener du côté de la gare. Je lis conversation avec des hommes d'équipe, des ouvriers. Je leur paye à boire. Oh, il ne faut aucune difficulté de me conduire à la voie où se trouve garée la rame de voyage-wagon du train qui m'a amené. J'ai gardé dans ma mémoire le numéro de la voiture. Oh, bonheur, la voilà! Je m'y précipite, je plonge la main parmi les cendres du poêle, je sors le paquet, je le ramène. Il est dans ma poche. Je cours au guichet, je prends mon billet, je saute dans le train qui va partir. Et quelques heures après, je franchis la frontière. Je passe devant les douaniers avec ma contrebande qui ne soupçonne pas et dont j'obtiens un bon prix à New York. Le bleu d'aniline a fait son effet. Après un si beau résultat, oh, j'ai bien le droit de me recréer un peu. Je me promenais tout seul dans Fifth Avenue et quelqu'un, familièrement, passa son bras sous le mien et gazouilla à mon oreille. « Si nous allions chez Delmotico dîner avec des tripes ?» Je reconnais la voix. Je regarde la personne. « Tip top, comment va ?» C'était lui. Oui, plus long, plus maigre, plus dégingandé que jamais. Oh, ce vieux tip-top. Cette veine de le rencontrer, car ce garçon-là, c'est la providence des Clever Boys. Lui ne mettait jamais la main à la pâte. On pouvait laisser traîner à sa porte les choses les plus précieuses. Il n'aurait eu garde d'y toucher. Mais la crème des indicateurs, c'était Type Pop. Quand il avait signalé une affaire, on était sûr de trouver le derby, le magot, au gîte tel qu'il l'avait décrit. Nous allons dîner au fameux restaurant, et pendant le repas, nous causons de choses quelconques. Mais lorsque dans le fumoir, devant le café à la Romexki, Type Pop, après avoir jeté à la ronde un regard circonspect, alluma son cigare, il amorça sur un ton gouailleur. « Est-ce que ce que vous voulez faire par là, ici, méchant champion ? Encore une de vos sales coups, j'y gage. » Ainsi, invariablement, il formulait son entrée en matière. C'était sa façon. Il n'y avait qu'à le laisser continuer. « Vous savez, il y a un coup à faire, un fameux coup, tout ce que vous pouvez rêver le plus épatant, épatant, plus $1 million, soit 5 millions de francs. Pas besoin d'emmener quelqu'un, c'est pas en or. Par 1500 kilos d'or emporté, non !» Du papier en grosses banque-notes, des rangs de perles, des bracelets de diamants. Voilà ce qu'il y a à prendre. Ça vaut la peine, hein? Mais où ça, tip-top, dites-le. Même, par exemple, c'est truqué, terriblement truqué. Oh, le diable vous emporte, de quel trucage parlez-vous? Bon, il serait préférable, je crois, de s'abstenir. Bon, soit, n'en parlons plus. Si, parlons-en. Vous êtes peut-être le seul homme capable de réussir cette chose-là. Et comme ce serait exquis, 1 million. 10% pour moi, bon. Est-ce que vous avez jamais fait tort d'un sou? Non, je sais. Mais si vous y allez... Et vous irez, prenez garde. Ce local est machiné comme les dessous d'un théâtre dans une féerie. Il paraît qu'il y a des trappes, des oubliettes, un luxe raffiné de précautions, tout ce qu'on a inventé, le plus perfectionné contre le cambriolage. Et vous savez, pas d'écriteaux qui vous avertissent, comme les « ici, il y a des pièges à loups ». Mais décidément, vous vous moquez. Très sérieux, soyez prudent. C'est à Baltimore, dans la Union Bank. À côté, il y a un hôtel. Tâchez de trouver une chambre au premier sur la cour. Tenez, prenez ça. C'est le plan de la banque. Dans la cab half, vous trouverez le magot. Je lui tendis la main, il me la serra avec énergie. Me retint encore pour y ajouter et bonne chance, soyez prudent, diablement prudent. » Dans le train qui m'emportait de New York à Baltimore, je m'efforçais de deviner ce que cela pouvait être. Évidemment, Tip Top n'en avait pas plus long que Nam m'avait dit. Bon, nous allions bien voir. Le long du premier étage, sur la cour, dans l'hôtel, à côté de la banque, régnait un balcon à niveau de la crête d'un mur mitoyen. D'un côté, la cour de l'hôtel, de l'autre, une vigne vigoureuse, voie d'accès et de retraite. Je me confiais sans hésitation au vieux sarment. Alors me voici dans un jardin. Chaussé de feutre, je marche sur la pierre et je contourne les plates-bandes. Puis, grâce au plan que m'a donné Tip Top, je coupe au plus court vers la cave A. La porte, devant l'escalier du souterrain, s'était montrée accommodante. La herse fit plus de façon, enfin, elle céda. Me voici dans la cave A, devant un coffre-fort immense, encastré dans la maçonnerie. Ces profondeurs devront me livrer les richesses qui m'ont attiré. J'avais progressé lentement, ne quittant le sol d'un pied qu'après avoir bien appuyé l'autre. Ni trappe, ni oubliette, ni piège à loup. Mais c'est de la blague, le trucage prédit par Tip Top. Et en approchant du coffre-fort, je passe à l'extrême ma manie de précaution. Tout en me moquant, je scrute partout du regard. Autour de moi, rien qui soit terrifiant. Ma lanterne sourde, dont je projette les rayons jusque dans le moindre recoin, éclaire des murs de céramique blanche, une voûte lisse, un sol carrelé. Je remarque à la muraille l'orifice de gros tuyaux. On dirait des ventilateurs. Ils m'intriguent, ces gros tuyaux. Sans m'attarder davantage à une contemplation stérile, j'attaque le coffre-fort. Mais je m'y prends trop brutalement. Mon Jimmy, ma pince, mon seigneur spécial, casse. Heureusement, j'en ai deux de rechange dans mon nécessaire. Je recommence, ça va, ça vient, et doucement, ça y est, bing! Au moment où le dernier peine cède, la porte du coffre s'ouvre, projetée par un déclic. Et j'entends un gargouillis d'eau, un bruit de cataracte et un claquement sur le métal contre la pierre. Ce sont les gros tuyaux qui dégorgent des torrents d'eau. C'est la herse que j'avais pris soin de caler et qui se ferme tout de même en rejetant la cale à 20 pas. Me voilà bien. Je n'essaie même pas d'ébranler la herse, à quoi bon? Je sais qu'elle ne cédera pas. Je n'ai pas le temps à perdre. L'eau ruisse et la bouillon. Elle monte avec force, avec furie. Elle coule et ondule. J'en ai jusqu'à la cheville. Non, mais je vais tout de même pas me laisser noyer comme un rat. Je me dis, si tout ce que ce jeu a commencé avec l'ouverture du coffre-fort, probablement cessera-t-il avec la fermeture. Essayons. Et cette eau, elle est glacée. J'y baigne jusqu'aux genoux. Je travaille, ou plutôt, je tâtonne. Et l'eau monte encore, j'en ai jusqu'à la ceinture. Clac, clic. C'est le coffre-fort qui se ferme à la volée et la herse qui se rouvre. L'eau ne coule plus, ne monte plus. Et je me sauve, bredouille, il est vrai, mais petit bonhomme vit encore. Je me lance dans l'escalier en spirale. Je m'arrête, je tends l'oreille. Là-haut, on parle, on vocifère, on s'interpelle. J'entends fermer avec bruit une lourde porte. Évidemment, c'est l'électricité qui a présidé à tout ce trucage où j'ai failli rester. Et c'est encore l'électricité qui a averti par une sonnerie d'alarme les gardiens de la banque. La première chose à faire, c'est de brouiller les traces. Je prends dans le sac que je porte en bandoulière une paire de semelles clouées. À la pointure énorme, j'attache ça à mes pieds. On va croire qu'un géant a foulé les plates-bandes du jardin. Et en dessous, j'ai franchi les 12 marches de la vis. Me voilà hors du souterrain. Les portes que j'ai forcées sont restées ouvertes. Toute la veine. Il pleut à torrents. Je ruisselle et cela s'explique. Je me glisse dans l'ombre, le long de la muraille. Mais pour atteindre la treille que je dois escalader, il faut que je passe sous un mât où rayonne une lampe à arc. En trois bonds, j'ai traversé la zone dangereuse. Derrière moi, une clameur. « Le voilà ! Ne le laissons pas échapper ! Tire donc ! Tire, Fred ! Allô ! Allô ! » Je grimpe, une détonation éclate, puis une autre, et une autre encore. J'essuie une volée de coups de revolver. Il tire trop haut, et je monte. Le plâtras que les balles ont arraché au mur tombe avec la pluie et m'aveugle. J'ôte ma casquette anglaise, munie d'une fausse étiquette de chapelier. Je laisse tomber de l'autre côté du mur, dans la cour de l'hôtel, sur un aplati par où je pourrais m'échapper. Je me glisse à plein ventre sur le balcon, où, comme une couleuvre, j'arrive jusqu'à ma fenêtre. La sixième. Je l'ai laissée ouverte. Je me dresse comme si je venais à l'instant de sortir de ma chambre. Il est 2 heures du matin. Au fracas des détonations, les garçons, les valets, les cuisiniers, les servantes, arrachés au sommeil et sommairement vêtus, sont accourus. Ils envahissent la cour de l'hôtel. Quelques hôtes apparaissent à leurs fenêtres. Je crie « Mais qu'est-ce que c'est ? On s'assassine donc ?»« Oh, toute une bande de cambrioleurs qui ont essayé de rivaliser la banque. Les gardiens en ont tué quelques-uns et la police est occupée à capturer les autres. Elle visite la banque de fond en comble. » Voilà ce que me répond une voix bien informée. Je lève la tête car la voix est venue d'en haut et je réponds « Oh, il faut que j'aille voir ça. Oh, moi aussi, j'y vais. Si vous le voulez bien, nous irons ensemble. Très bien, hein, très volontiers. » »« Très volontiers, en effet. » Car ce compagnon, en cas de nécessité, sait-on jamais, prouvera mon alibi. Je me hâte, je troque ce que j'ai sur le corps contre des vêtements secs. Oh, il était temps. Je suis glacé jusqu'aux os, transi jusqu'à la moelle. Vite, ces choses détrempées dans ma valise. Toc, toc, on frappe à la porte. Mon compagnon est un très gentil garçon, d'humeur sociable et gai. Il se présente avec aménité. John Spinter de Chicago. À qui ai-je l'honneur ? Et nous sortons. La rue est noire de monde. C'est un boutonnement de parapluies sous l'averse. Mais d'où sont-ils sortis, tous ces gens-là, à cette heure indue ? Comment se peut-il qu'en un moment, ils se soient rassemblés ? C'est le mystère des foules. La police sort de la banque. On n'y a trouvé personne à arrêter. Maintenant, on s'attache à suivre les traces de l'homme que les gardiens ont vu escalader la vigne et qu'ils ont canardé sans l'atteindre. S'ils sont unanimes à déclarer qu'il s'est enfui par la cour de l'hôtel, ils ne peuvent toutefois se mettre d'accord en ce qui concerne son signalement. L'un le dit très grand, l'autre affirme qu'il est de la taille au-dessous de la moyenne. Ils reconnaissent qu'il marchait courbé et que, sur la vigne où il a grimpé comme un chat, on le voyait à peine sous les pampres. Dans le jardin, un détective a relevé l'empreinte des grandes semelles cloutées. On lui apporte encore la casquette que l'on vient de trouver sur la pentille de l'autre côté du mur. Sa joie est sans égale. Oh, il paraît maintenant sûr de son affaire. Je ne sais pas quelle fut la suite de ses investigations. Je ne l'ai pas attendu. Adam Worth, chapitre 8. Me voici, retour de ma folle équipée, à New York, où je ne m'arrête pas. Non, même pas pour revoir Tip Top. Ce qu'il a dû rire en lisant le récit de ma mésaventure dans les journaux. Mais il a dû se réjouir de ce que j'ai si gentiment échappé à la police. Je m'embarque sur le Friedland, un bateau de la Red Star Line à destination d'Anvers. Dans cette ville opulente, j'ai fait jadis quelques opérations fructueuses. Mais elle est trop fréquentée des détectives anglais que je ne me soucie pas de rencontrer maintenant que je suis devenu leur burlabou, leur bête noire. Je commence par aller à Spa, où je perds à la roulette à peu près tout ce qui me restait. Ouais, c'était le moment de si bien travailler. Liège est à côté. Voyons si je peux y trouver l'occasion de me refaire. Tout d'abord, dans la gare, je remarque une voiture des messageries Wangen. Oui, oui, oh, c'est ça qu'il me faut. Un bon ballot de titres pris dans cette voiture. Oui, mais comment? La nuit portera conseil. Allons toujours à l'hôtel, nous coucher et dormir. Demain, il fera jour. Et je pense à mon ami V de Bruxelles. C'est un receleur très bien vu, très connu dans le monde des Schlesboys, l'aristocratie de la pègre. Je lui adresse le télégraphe que voici. Chapeau grand, il me faudrait une fabrication belge ou forme liégeoise. Ce qui signifie clairement, affaire que je ne peux entreprendre tout seul, il me faudrait quelqu'un qui connaisse Liège. V ne me répond pas par le télégraphe. Il s'amène en personne. Et quand il apprend ce dont il s'agit, il se déclare prêt à me servir. Notable commerçant bruxellois, connu comme tel dans toute la Belgique, il est fort naturel que, se trouvant à Liège, il y fréquente les bureaux de messagerie qui effectuent tant de ses expéditions que fait ou qu'il reçoit. L'air bon enfant, toujours prêt à sortir de sa poche une poignée de gros sous afin que l'ouvrier se désaltère, il ne dédaigne pas d'accompagner sa gratification de quelques plaisanteries au gros sel. L'ouvrier déborde de gratitude. Il est trop heureux de causer avec un monsieur généreux et pas fier. Et quand l'ouvrier parle, c'est de son métier, comme tous les simples. Il se figure que l'on ne saurait être plus intéressant que ce qui l'intéresse. Et V ne tarde pas à m'apporter tous les renseignements que je pouvais désirer. Et il retourne à Bruxelles. Je vais me promener le matin du lendemain dans la rue Sauvenière et dans ses alentours. Bientôt, je vois apparaître la voiture des messageries. Elle s'arrête devant le numéro 10. Le cocher enrène son cheval. Il saute à bas du siège après avoir pris soin derrière lui dans la voiture un colis envoyé de Bruxelles par mon ami V. Le cocher entre dans la maison. Il est entré. Il y en a pour 2 minutes au moins à faire signer le récépissé. Je jette un regard à la ronde. Personne. Personne dans la rue. Personne aux fenêtres. Et vite sur le siège. Je crochète la serrure. Entre une demi-douzaine de paquets et 30 colis, je discerne le magot. Oui, c'est bien cette enveloppe, ce paquet ficelé et cacheté qui vient de la banque D et K de Bruxelles. 300 000 francs de titres. Et je pense ça. Je saute, mon pied roule sur un caillou, je glisse et manque de tomber. D'un coup de rein, je me redresse, j'évite la chute. Et du profond de mes entrailles surgit une souffrance aiguë, lancinante. C'est une douleur affreuse. Une sueur me coule du front. La sueur de l'agonie ne saurait être plus froide. Je claque des dents. Je pense à partir, fuir. Oh, je ne peux pas. Je viens de me faire une hernie. À la volée, derrière moi, je rejette le paquet dans la voiture, restée ouverte. Trop tard, sur mes bras, sur mes épaules, des mains s'abattent brutales. On m'injurie, on me houspille. Que de bruit! Des gens accourent, s'attroupent, attentifs et railleurs. Ah, voici un agent de police. Il me met les menottes. J'ai envie de pleurer, mes yeux restent secs. J'ai très mal dans le ventre. Oh, ça ne cesse pas. L'agent croit que je ne veux pas marcher. Il s'indigne de mon inertie. Il me secoue. Il me traîne. Je tombe. J'entends autour de moi gronder une huée. Je reçois des coups de canne, des coups de pied. L'agent me prend sous ses aisselles et me remet debout. Il me soutient, m'appelle ivrogne et demande qu'on aille chercher un fiacre. On me hisse là-dedans et en route chez le commissaire. J'ai échappé aux ruses des détectives d'Angleterre, de France et d'Amérique et c'est pour tomber entre les mains d'un garde-ville belge. On me transporte à l'infirmerie de la prison. Un docteur refoule mon hernie. Un gendarme, coiffé d'un invraisemblable ourson, me pousse dans une voiture cellulaire. Puis il me conduit, menace au poignet, devant un juge d'instruction, qui me questionne selon la formule. À chacune de ses interrogations, je lui fais un grand salut, une profonde révérence, mais c'est sans desserrer les lèvres. Il n'obtient pas un mot de réponse. On m'impose d'office un avocat que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître. Je lui laisse le soin de plaider ce qu'il veut. Il fait semblant de chamailler avec le procureur du roi. Tous deux abusent de la faculté oratoire. Ce qu'ils disent, en une langue que je comprends très peu, arrive à mes oreilles confus et bourdonnant. Je pense à dénommer la petite ville juchée à flanc de coteau dans les Afghanis. Je vois la maison d'Henri et ses deux fils. Mais quand les reverrai-je? J'aurais laissé toi vivre tranquille, mais si je mourais, ils ne connaîtraient pas les soucis du dénuement. Mais j'entends bien. Je suis condamné à 7 ans de prison. Non, non, je n'ai rien à dire, merci, monsieur l'avocat, merci. On me transfère à Louvain, dans la maison centrale. Quelle saleté, quelle rebutante pitance. J'y prélève juste ce qu'il faut pour m'empêcher de mourir de faim. V est un bon copain, il ne m'a pas abandonné dans le malheur. Il ne peut se montrer ostensiblement. Que dirait-on à la bourse de Bruxelles? Mais il est venu rôder autour de la prison, Il a persuadé mes gardiens que je mérite des égards et quelques douceurs. Ils n'ont pas manqué de l'en croire sur parole, car il a la pièce de 100 sous facile. En revanche, il m'apporte des friandises, des cigares, d'excellents cognacs. Il faut bien qu'il se cache, car un mouton ne cesse de m'épier, de me dénoncer. Et son animosité s'explique par le fait que jadis, en de meilleurs temps pour moi, je lui ai rendu service. Ce co-détenu est un baron de façon belge, il est vrai, mais quelque chose dans le genre du contre-main. C'était un Prussien qui, primitivement, se nommait Max Schönwelm. Je l'avais connu en Amérique, où il se faisait appeler Max Schinburn. Et ici, il était devenu le baron de Schindler avec lettre patente. Il y avait 20 ans qu'à New York, il cambriolait la Ocean Bank. Il fuyait en Belgique en portant près d'1 million. Son capital lui avait permis de devenir de noblesse et de fonder une banque. Il la fit prospérer d'abord, suivi par des escroqueries avec des ingénieuses. Il avait imaginé la spéculation à terme, avec obtention d'un carnet de chèques par simple dépôt de titres. La contrepartie lui suffisait à rendre fictif spéculation et carnet, et il s'appropriait les titres. Il disait volontiers qu'en matière de bourse, tout était possible. Mais il lui arriva ce qui arrive à tant d'autres. Après avoir dupé tout le monde, il devint sa propre dupe. Il confia à des escrocs l'argent qu'il avait lui-même escroqué. Le besoin le rendit imprudent. De plus, le gaillard savait très bien disséquer une correspondance. Fort de ce talent, il avait entrepris de faire chanter une personnalité bien en cours. Et voilà pourquoi, à ma grande infortune, je le retrouvais prisonnier, comme moi, à Louvain. Non, pas comme moi, car je ne frayais pas avec les gardiens, tandis que lui, il se faisait leur valet et câlinait l'aumônier qu'il édifiait par sa grande dévotion. Il commença par divulguer que j'étais Adam Worth et non pas Harry Raymond, nom sous lequel on m'avait condamné. Enfin, sa libération anticipée fut le prix de ses services. Oh, nous verrons si après qu'ils ne lui ont pas porté bonheur. Sur ces entrefaites, des personnages considérables étaient venus me solliciter dans ma prison. D'abord, ce fut le consul d'Amérique qui vint m'offrir ma liberté et 15 000 francs de gratification si je lui donnais des renseignements propres à faire retrouver le Gainsborough. Je fis le sourd et l'ignorant. Toute son insistance fut vaine devant mon obstination. C'était peut-être qu'un travail d'approche, un simple ballon d'essai. Car peu de jours après cette tentative avortée, l'avocat, que les juges avaient désigné d'office pour me défendre devant le tribunal, cet avocat, avec qui j'avais été poli, sans plus, me renouvela la proposition légèrement améliorée. Il s'agissait maintenant de 25 000 francs qui m'étaient offerts par la Légation d'Angleterre, plus la promesse formelle des autorités belges de m'accorder la remise de ma peine et au nom des intérêts sacrés de l'art, je voulais parler du fameux tableau, de façon que la police pût aller le chercher là où je l'avais caché. Pour qu'aucun doute ne puisse subsister, l'avocat, dans un élan d'extrême loquacité, me mettait sous les yeux l'engagement écrit sur papier en tête officielle et signé par le ministre de la Justice, belge, en personne. Cela ne m'émut guère. Je n'avais pas confiance, et voilà tout. Et puis, j'étais aigri. Aigri et déprimé. L'ennui, la grossièreté de mon existence actuelle, l'étroitesse et la mesquinerie du milieu, tout cela avait singulièrement réduit le potentiel de mes nerfs. Tout m'agaçait. Mais heureusement, j'avais gardé assez d'empire sur moi pour me dissimuler mon énervement. Je ne me suis plaint de rien, ni de personne. Tout d'abord, et dès les premières heures de mon incarcération, j'avais pensé à m'évader. Cela n'est pas facile, mais que ne peut-on réaliser avec de l'adresse et de la patience? Mais alors, ce baron de Schindel ne cessait de m'épier. Partout où je tâtonnais pour trouver une issue vers l'évasion, je le voyais surgir. À présent, débité par l'insuffisante nourriture, par les germes délétères, épars et toujours âpres, spirés, je me trouvais dans une parfaite indifférence. Placide, je me courbais sous le poids de la fatalité. Cependant, même dans une prison, la surprise vient parfois rompre la persistante monotonie. Un jour, je vois arriver V, non pas pour me faire visite, mais pour y devenir mon co-détenu. Sa respectabilité commerciale a sombré dans un désastreux. Le bottin le mentionne encore au notaire commerçant, mais son état actuel lui interdit tout négoce. L'histoire de sa disgrâce est assez curieuse pour trouver place ici. Établi à Bruxelles, il y vendait des pans-produits chimiques et jouissait de la considération universelle. On ne pouvait se douter quel recel plus productif, quel trafic illicite mais infructueux et beaucoup plus fructueux se dissimulait derrière ces si honorables façades. Ce que la police et la justice savaient dans leur ignorance toléré si longtemps, un homme peu désigné pour cette action, un rentier qui peut-être ne s'était jamais douté combien il était doué des maîtresses qualités du parfait détective, le découvrit tout à coup, de la manière la plus simple, par un véritable truisme policier. On avait cambriolé chez ce rentier. On lui avait volé 300 000 francs de titres. Toute sa fortune. Il courut chez le commissaire porter plainte. La justice informa. Les policiers se démenèrent. Rien. Pas un indice. Pas une piste. Le banquier s'inquiétait peu de savoir qui était le voleur. Ce qui lui importait, c'était de découvrir le lieu où se trouvait son bien, et de le reprendre. Et il se démena si bien, interrogea si à propos et là où il le fallait, que bientôt il sut se diriger par ses propres moyens. Il fréquenta alors dans un petit café près de la bourse, où les gens de la finance interlope avaient l'habitude de se réunir. D'abord on le regarde de travers, mais il a vite fait de prendre le ton et les manières du milieu. On le croit un filou. Dès lors, plus de secrets. On lui propose des affaires. On lui offre ses titres. Il se garde de laisser éclater sa joie. Il ne fait pas intervenir la police. Ce serait prématuré. Il faut qu'il lui ait d'abord mâché la besogne. Il marchande selon l'usage. Puis il exige qu'on lui montre premièrement ses titres. Car après tout, il se peut qu'on veuille lui faire apprendre le vrai faux titre. Cette méfiance paraît bien naturelle. Dissipe les derniers doutes. On le met en rapport avec le receleur, c'est-à-dire V. Et sous prétexte qu'il aura des fonds que le lendemain, encore un motif des plus plausibles, il ne conclut pas tout de suite. Il s'en va requérir policiers et magistrats qui, sceptiques et scandalisés, le suivent tout de même, mais en rechignant. Il les mène tout droit chez V, où dans de grands tonneaux de cristaux de soude, les voleurs volés furent retrouvés. Mon pauvre ami dut payer cher les railleries dont le public gouailleur ne se plut à l'accabler justice et police qui n'avaient pas su le démasquer. Il sortit des débats avec 12 ans de prison à tirer. À la vérité, il ne fit pas 12 mois. On lui ouvrit la porte, il s'en alla. Et les autres prisonniers s'étonnèrent de ne plus le voir. Je ne me donnais pas la peine de chercher les causes de sa délivrance. S'il fallait rester surpris, devant tout ce qui semble peu explicable, la vie se passant en un perpétuel étonnement, je restais un peu plus isolé, voilà tout. Les années s'écoulèrent vite et lentes. Enfin, mon gardien faisait sonner gaiement son trousseau et elle m'annonçait que ce serait pour le lendemain. Je me reprochais d'en accueillir la nouvelle avec si peu de transport. Étais-je arrivé à une telle dépression que ma vitalité en devait rester à jamais ternie? Oh non! Je m'en aperçus quand je fus conduit devant le directeur de la prison qui, préalablement à la levée des écrous, tenait à placer son petit discours de circonstance. « Worth, monsieur, ne m'interrompez pas, Worth. Je ne vous interromprai pas, monsieur. » Ma leçon restait lettre morte. Cela me fait un bien égal, qui ne la comprit point. Oh. Il poursuivit son discours péniblement et lança avec emphase cette péroraison laborieusement trouvée. Un homme de votre envergure devrait pouvoir mieux faire. Allons, allons, je ne suis pas encore si déprimé que ça, car je réponds à cet homme de bien très froidement. Je vous remercie, monsieur le directeur, mais indiquez-moi donc un métier, ou plus facilement, plus vite et avec moins de risques, on puisse s'enrichir et je l'adopte. » Tandis qu'il reste éberlué, je lui fais un grand salut et je pirouette sur mes talons.